La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Retour au temps où la Libye n'était ni facteur ni acteur dans les relations internationales, où elle était un enjeu, un théâtre pour les puissances, ce qui ne veut pas dire que ses habitants se résignaient à n'être que des pions sans résistance. François Dumazy connaît bien l'histoire de la Libye. Bonjour François Dumazy.
Bonjour.
Il enseigne à Aix-en-Provence et au temps heureux où il était élève de l'école française de Rome, il s'était lancé dans cette histoire sans savoir peut-être que les sources manquaient et que les légendes faisaient écran.
Oui, tout à fait. C'est une histoire extrêmement difficile à faire. Je pense qu'il sera encore plus difficile à faire maintenant que Tripoli est fermé aux visiteurs étrangers. C'est une histoire d'autant plus difficile à faire qu'il a fallu aller à Tripoli dans des archives qui n'étaient pas du tout classées, qui étaient complètement laissées à l'abandon.
Vous y avez acheté à Tripoli, dans la Médina, un film dont on va beaucoup se servir qui s'intitule « Le lion du désert » dont voici en exergue le premier extrait.
Regardez, cette zone verte, ce vert. Symbole de fertilité. Voilà la récompense. Le reste n'est qu'un bout de papier d'emballage. Cette terre n'attend qu'un audacieux pour la prendre et l'empaqueter.
Voilà, c'est pas Kadhafi qui parle, c'est Mussolini qui est opposé à la conquête coloniale quand il était socialiste. L'a achevé dans les années 1920-1930. Terre verte, décrivez-nous. La Libye, il y a un siècle.
Terre verte, a été très verte dans l'imagination des nationalistes italiens qui s'étaient emparés de ce thème de la fertilité. On appelait ça l'Italie terre promise, en référence évidemment à la Bible. Terre promise pour les Italiens qui étaient censés, en Italie, accomplir la dernière étape du Risorgimento, c'est-à-dire l'unification italienne, et s'affirmer comme une puissance méditerranéenne. Elle était verte dans cette imagination des nationalistes, puisqu'en fait, il s'est avéré que c'est une terre extrêmement aride.
Alors, il y a un axe est-ouest, celui que les rebelles empruntent et que les troupes fidèles à Kadhafi essayent de barrer, avec la Cyrénaïque à l'est, le golfe des Sirtes au centre, la Tripolitaine à l'ouest. Mais on voit bien ce que c'est que cette bande côtière, mais on sait moins que la Libye, c'est aussi un axe nord-sud très important.
Alors là, on peut effectivement présenter la géographie libyenne schématiquement de cette façon-là, avec deux pôles essentiels, donc le pôle est qui est la Cyrénaïque, qui est en fait le pôle le plus vert effectivement, qui se retrouve dans la géographie, dans la topographie, puisque le Djebel Artar, donc la montagne verte, c'est la région de collines qui entoure Benghazi, et c'est là où peut-être une des montagnes qui a créé aussi cette illusion d'optique pour beaucoup de visiteurs européens. Et puis, séparé par plusieurs centaines de kilomètres de désert, on trouve à l'ouest la Tripolitaine. Or, la Tripolitaine, au début du siècle, c'est quoi? C'est d'abord des oasis côtières, fertiles mais extrêmement limitées en superficie, notamment l'oasis de Tripoli. Et puis derrière, des hauts plateaux séparés de la bande côtière qui conduisent à une immensité de sable. Et au fond de ces sables, on a là aussi quelques oasis, le Fezzan. Mais c'est en aucun cas une terre verte, c'est une terre extrêmement divisée.
Les sables, j'en reviens François Dumazy à mon axe nord-sud, sont quand même traversés par les pistes qui mènent au Niger et au Tchad, avec les Touaregs qui veillent sur elles, et par où arrivaient jusqu'à Sirte, au centre de la Libye, l'or, l'ivoire, les peaux et les esclaves.
Alors la Libye, effectivement, ça a tenu en quelque sorte. Enfin, la Libye, c'était cette sorte d'interface entre la Méditerranée, entre le commerce méditerranéen et puis le commerce subsaharien. C'est ce qui a fait la fortune, entre guillemets, de Tripoli, qui n'était qu'une petite bourgade caravanière, qui a vu affluer cet or, ces produits subsahariens, et qui, inversement, permettait l'arrivée vers l'Afrique subsaharienne des produits méditerranéens. C'était cette sorte de petit rôle de port, qui est menacé au début du siècle par les colonisations britanniques et françaises, qui détournent ces voies caravanières.
Mais alors, le port de Tripoli, il est tenu par les Ottomans, par l'Empire ottoman, qui a constitué une vilayat, une province, qui correspond à peu près à la Libye actuelle, à partir de ce port. Mais, vous dites, il y a un siècle, un peu plus d'un siècle, que les Anglais sont là en Égypte, que les Français sont à côté en Tunisie, et que on attend du côté français et anglais le démembrement de l'Empire ottoman.
Alors effectivement, depuis en fait le début du 19e siècle, les Français et les Anglais sont dans une compétition pour essayer de pénétrer le marché ottoman. Et puis à la fin du 19e siècle, cette histoire de compétition laisse la place à un démembrement qui a commencé en fait dès 1830 en Algérie. Alors la Tripolitaine et la Cyrénaïque, donc la Libye, c'est le dernier lambeau de l'Empire ottoman en Afrique du Nord. C'est le dernier vestige. Ça a une importance symbolique très grande pour les jeunes Turcs, qui représentent ce courant nationaliste turc, et les jeunes Ottomans avant eux, qui essayent de maintenir cette présence, alors que précisément on a déjà un partage de fait dès 1887, pratiquement les affaires sont conclues entre les Français et Italiens et Anglais.
Et les Italiens.
On promet la mainmise sur la Tripolitaine.
Voilà. On leur promet la mainmise sur la Tripolitaine parce que au fond ils sont un peu attristés de leur situation subalterne eu égard à la grandeur de l'Empire romain passé et les Italiens et les Français finissant par s'allier avant la guerre de 1914. La Foucault est libre pour la conquête de la Libye par l'Italie. Nous sommes en 1911. Voilà le film Le Lion du désert, un nouvel extrait.
Nourri du rêve insensé de faire revivre la gloire de la Rome antique, l'Italie, en 1911, se lance à son tour à la conquête de nouveaux territoires. La Libye, sur l'autre rive de la Méditerranée, est son objectif. Des troupes débarquent à Tripoli. Benghazi, Zouara, Sirte, Derna et Tobruk. La population locale, assaillie de toutes parts, oppose une résistance farouche et résolue aux envahisseurs et brise leur élan sans pouvoir les chasser. C'est l'impasse. En 1922 s'ouvre une ère nouvelle pour l'Italie. Celle de la dictature de Mussolini. Le conflit prend une ampleur nouvelle en Libye, où les forces fascistes de plus en plus nombreuses se heurtent à la résistance accrue de la population.
Nous envahirons la terre entière. Et ensuite, je vous le dis, nous ferons flotter le drapeau du fascisme jusqu'aux étoiles.
Une conquête longue, lente et difficile, d'autant que la Grande Guerre ne la facilite pas. Le fascisme va la relancer. Cette conquête fait que la Libye échappe au monde ottoman. Les Italiens, du coup, sont expulsés des bases qu'ils avaient depuis très longtemps dans l'Empire ottoman. C'est grave pour eux.
Bien sûr. En fait, le prix à payer pour l'Italie... L'Italie a fonctionné en termes de puissance coloniale à un moment où la colonisation avait déjà changé de forme. C'est-à-dire que l'Italie prend la possession de la Tripolitaine à un moment où la France, par exemple, utilise le modèle du protectorat au Maroc et puis avant en Tunisie. Et l'Italie agit comme une vieille puissance coloniale. Le prix à payer sera assez fort pour elle puisque les Italiens seront expulsés de l'Empire ottoman où il y avait énormément d'Italiens. Ils avaient des affaires, des intérêts économiques assez puissants. Ce qui était intéressant dans cet extrait aussi, c'est qu'on voit très bien que cette colonisation, cette conquête italienne, elle se fait sur des petits points d'appui en fait, sur des points d'appui qui sont dispersés. Alors, ils étaient cités Tripoli, Benghazi, Homs, Misrata, Tobruk, etc. Et les Italiens sont effectivement présents dans ces villes. Ils ne contrôlent rien. C'est-à-dire que même à Tripoli, en 1915, les Italiens ne contrôlent pas plus de 10 km de terre au-delà des murs de la ville. Derrière, c'est le règne des nomades, des rebelles, qui sont très actifs. Et effectivement, la conquête va être très, très lente.
Les rebelles sont très actifs. On connaît peu ce pré-État islamique, cette structure souterraine de résistance qui existait en Cyrénaïque, c'est-à-dire du côté de la frontière égyptienne, et puis aussi dans les sables. C'était une confrérie, celle des Sanoussis, qui l'animait.
Alors, les Sanoussis, c'est... Là, il faut quitter le vocabulaire politique occidental. Il faut rentrer dans ce que c'est ces états du désert, en fait, dont la Sinoussia est un des exemples les plus parfaits. La Sinoussia, c'était d'abord une confrérie religieuse qui était en Cyrénaïque, donc à l'est de la Libye hein, actuelle. C'est une confrérie religieuse, comme il y a pu avoir des confréries en Égypte ou en Arabie Saoudite. Et c'était à travers ce réseau de Zawiya, donc de place sainte, si vous voulez, d'écoles coraniques, que s'étaient créés des systèmes de coordination, de réglementation du commerce, de la justice, des litiges, qui permettaient en fait aux différentes populations de vivre de façon relativement pacifique.
Idriss Sanoussi, le chef de cette confrérie, de ce pré-État musulman, de ce sous-État musulman, est en exil en Égypte, mais un délégué est là, qui s'appelle Omar Mukhtar, un vieux monsieur qui a une soixantaine d'années, et puis qui pratique le harcèlement des Italiens, évitant le combat, mais...
Alors, Omar el-Mokhtar, c'est le héros national libyen. C'est même un héros arabe, en fait, bien au-delà des frontières libyennes. C'est une figure très symptomatique. Omar el-Mokhtar, c'est un de ces hommes pieux de la Sénoussia. C'est un de ces docteurs de la foi. C'est un enseignant qui enseigne le Coran, qui dispense la foi. Et lorsque Idriss el-Sénoussi trouve refuge en Égypte en 1923, Omar el-Mokhtar va se trouver de fait le leader ou le chef de cette rébellion armée. Il est déjà âgé, il a plus de 60 ans. Et pendant 10 ans, il va tenir tête aux Italiens avec des stratégies de guérilla extrêmement bien rodées. Il attaque, il fonce sur les colonnes italiennes, il repart dans le désert.
C'est lui le lion du désert, le héros du film dont on va parler dans un instant et dont on entend un nouvel extrait au bout de 10 ans, en septembre 31. Le général Graziani, l'opérateur de la conquête italienne de la Libye, finit par le prendre en embuscade. Il est prisonnier.
Pourquoi vous êtes-vous entêté si longtemps? Vous n'espériez pas nous chasser de Libye avec de si petits moyens?
Nous avons lutté. C'est ça qui comptait.
Est-ce qu'il ne comptait pas pour vous? C'était la ruine de votre pays.
C'est vous qui avez causé la ruine de mon pays. Que feriez-vous, vous, si des étrangers occupaient votre terre?
Avez-vous jamais réfléchi à ce que vos attaques pouvaient représenter à nos yeux? Embuscade, meurtre, pillage, enlèvement, vol, menace contre les fermiers.
Vos fermiers cultivant nos terres. La Libye n'est pas votre patrie. Vous n'avez pas de droit sur elle. Pas le droit d'y faire paître une tête de bétail. Pas l'ombre d'un droit.
L'Italie a autant de droits ici que les autres ailleurs. L'Angleterre a des droits sur l'Égypte, la France sur la Tunisie et l'Algérie, l'Espagne sur le Maroc. Mais les nôtres sont plus solidement fondés. Nous n'avons fait que revenir. Lisez la date de cette pièce. C'est de la monnaie des Césars, datée, frappée en Libye.
C'est ça la justification des Italiens, vous l'expliquez dans votre thèse à paraître l'année prochaine, François Dumasi, sur l'urbanisation de Tripoli. Les Italiens gardent tous les vestiges romains et essayent de recréer une nouvelle aurore de l'Empire romain.
Alors, c'est une justification qu'on trouve en fait aussi dans toutes les colonisations européennes en Afrique du Nord. Les Français aussi se déclarent être les héritiers de la Rome antique. C'est une des justifications les plus commodes, et les Italiens s'en emparent, ce qui est un peu paradoxal, puisque dans le cas de la Cyrénaïque, ça a d'abord été colonisé, et avant tout par les Grecs. Et même sous l'Empire romain, les populations étaient hellénophones, essentiellement. Alors, c'est l'idée que l'Italie va reporter ces terres à une sorte de prospérité économique et agricole. Et c'est l'idée qui est constamment agitée du droit de précédence en fait par rapport aux populations arabes, ce qui est une conception complètement abstraite de l'histoire, qui ne tient pas du tout en compte les évolutions postérieures et qui permet toutes les justifications. La rébellion d'Omar el-Mokhtar a été prisée au prix de dizaines de milliers de victimes et au prix du déplacement de 100 000 personnes en Cyrénaïque. Tout ça est constamment légitimé par ce recours à cette civilisation romaine qui agitait comme une sorte d'étendard par le fascisme et avant lui par le gouvernement libéral italien.
Le Lion du désert, 1981, un film financé par le colonel Kadhafi avec Anthony Quinn dans le rôle d'Omar le rebelle, on n'arrive toujours pas à le voir en Italie.
Alors effectivement, c'est cette surprise production qui est commandée par Kadhafi dès 1979 à Mustapha Akkad, qui est un producteur libyen travaillant aux États-Unis. Cette superproduction, qui a un succès énorme dans le pays, dans le monde arabe, mais aussi aux États-Unis et en Europe, elle est interdite en Italie. Elle est interdite parce qu'on considère qu'elle porte atteinte à la dignité nationale. Et jusqu'à ce jour, la législation n'a pas changé. Alors, le film a été projeté quelques reprises dans des manifestations, des célébrations culturelles, mais on n'a jamais pu le voir en salle. Le grand public italien n'a jamais pu le voir en salle en Italie. Il reste, pour l'instant, frappé d'une sorte de censure juridique.
Sur la poitrine de Kadhafi au temps de sa gloire, souvent une photo où on voit le vieux Mokhtar enchaîné, entouré par les responsables italiens. On a laissé Mokhtar dans cet état difficile, conversant de manière violente avec le général Graziani. Le général Graziani décide de son exécution peu de jours après son arrestation. Nous sommes le 15 septembre 1931.
La sentence vous concernant, Omar Mokhtar, est la mort par pendaison en place publique. 16e jour du mois de septembre 1931, en 9. De la glorieuse ère fasciste.
Centurion, allez.
Prêt!
marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Le Nouvel Observateur a retrouvé le vieux fils d'Omar. Il a lui-même 90 ans maintenant. Il dit que Berlusconi est venu lui demander pardon en lui baisant les mains. Et donc il a pardonné à Berlusconi. Par contre, il ne pardonne pas à Kadhafi d'avoir transféré nuitamment les cendres d'Omar Mukhtar à 2h du matin depuis Benghazi jusqu'à une destination inconnue, peut-être Tripoli, parce qu'il ne supportait pas Kadhafi, le culte d'Omar.